Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service, l'émission de fête société des Radio Okapi. Nouvelle loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles. Comment se fera la mise en œuvre de cette nouvelle loi promulguée par le chef de l'État? Nous en parlons avec Maître Justin Bahirwe Mutabunga. Il est coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Monsieur Maître Justin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, envoyez-nous vos témoignages, questions et suggestions au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Priscille Kabouyette à la réalisation et Dieudonné Nyangassa s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nouvelle loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles. Comment mettre en application cette nouvelle loi promulguée par le chef de l'État en décembre dernier? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-50. Sur internet, merci de nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué le 29 décembre dernier la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection, à la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Selon nos sources, ce projet de loi va combler les vides juridiques tout en tenant compte des facteurs liés à la réparation administrative, juridique et d'indemnisation des victimes. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour l'application effective de cette loi? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Maître Justin Bahirwe Mutabunga. Il est coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Maître Justin, dites-nous comment est-ce que cette nouvelle loi promulguée par le chef de l'État a été accueillie par vous qui êtes acteur de la société civile dans le domaine de défense des droits de l'homme?
Alors oui, il faut commencer par préciser qu'il s'agit d'une avancée majeure par rapport à un des piliers de la justice transitionnelle, à savoir les piliers réparation dans les volets aussi collectifs et individuels. Donc ce n'est qu'une avancée qui est saluée du côté de la société civile, mais qui demande encore beaucoup de suivi, surtout dans la mise en œuvre de cette loi. Et je pense qu'au cours de cette émission, nous allons essayer de revenir sur les attentes, non seulement de la société civile, mais aussi des victimes, plus principalement, qui feraient en sorte que ces piliers qui avancent ne puissent pas handicaper surtout les renforcements des autres. Comme vous le savez, la justice transitionnelle, de manière classique, elle est constituée de quatre piliers. Celui de la recherche de la vérité, de la vérité, de la réconciliation, mais aussi de la garantie de non-répétition. Et là, on a parlé à l'époque au niveau de la RDC, de la commission vérité et réconciliation juste au début de la transition, pendant la période de la transition la politique. Il y a le volet ou le deuxième pilier qui est celui des réparations. J'ai évoqué que la réparation qui est visée ici, elle est à la fois collective et individuelle. Comme ça, on comprend la globalité des réparations. Mmh. Il y a le pilier de la mise en place du volet pénal. Pour la RDC, il y a deux écoles. Une école qui voudrait qu'on dispose d'un tribunal pénal pour la RDC, spécial, mais aussi une autre école qui voudrait qu'on dispose plutôt des chambres mixtes spécialisées. Mais c'est toujours le volet pénal qui est attendu. Et à la fin, il y a le volet des réformes des institutions de sécurité et de justice, qui est lié aussi à un élément très très important qui ressort dedans, à savoir les vetting. Les vetting voudraient que toutes les personnalités qui sont liées au crime ne soient plus à mesure d'occuper des hautes fonctions dans notre pays. Donc, nous avons accueilli, pour récapituler par rapport à votre première question, nous avons accueilli cette loi avec beaucoup de satisfaction. Mmh. Et comme c'est déjà une étape franchie, nous nous tournons vers ce qu'il faut pour que cette loi puisse être appliquée de manière effective à la satisfaction des véritables victimes.
Oui, mais maintenant, du côté des victimes, est-ce que les victimes ont également été associées dans la démarche d'élaboration de cette loi qui a été promulguée par les chefs de l'État? Est-ce que l'air desiderata se retrouve dans cette nouvelle loi promulguée par les chefs de l'État en décembre dernier, maître?
Alors, on peut dire que les victimes ont été associées, mais de manière minoritaire, parce que pour élaborer ces textes de loi et d'autres d'ailleurs qui sont en train d'être élaborés, il a plu à la présidente de la République de mettre en place les processus qu'on appelle aujourd'hui FONAREV. Les processus FONAREV, c'est le processus qui va consister à piloter ces fonds de réparation, mais il a fallu qu'on mette en place une sorte de commission, des différentes commissions constituées non seulement par des acteurs étatiques, je veux dire politiques, mais aussi non étatiques. Mais on s'est rendu compte que du côté non étatique, à savoir la société civile, il y avait que trois structures. Une structure qui représente les mouvements des survivants et survivantes des violences sexuelles. Une structure qui représente aussi les victimes à Kinshasa, mais aussi une structure qui travaille à côté de la société civile avec les victimes des violences sexuelles et d'autres crimes, à savoir la Fondation Pandi. Mais quand vous regardez l'architecture par rapport au ministère représenté à tous les niveaux, je veux dire, et en plus du cabinet de son Excellence et le président de la République, on s'est rendu compte qu'il y avait un déséquilibre, ce qui fait que, en tout cas, on ne peut pas dire que la voix des victimes était majoritaire, mais nous pouvons quand même nous contenter du fait que il y avait la possibilité, effectivement, d'entendre la voix des victimes à travers les représentants et les représentantes qui y étaient. Mais vraiment, il faut déplorer le fait que elles aient y été, parce qu'elles sont toutes trois femmes, elles aient y été minoritaires.
Nous vous gardons en ligne, maître Justin. Nouvelle loi sur la réparation des victimes des violences sexuelles. Comment doit se faire la mise en œuvre, au fait, l'application de cette loi promulguée par le chef de l'État en décembre dernier? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, nous avons besoin de vos témoignages. Appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-700-11-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Nous commençons par l'auditeur de Bukavu. Il s'appelle Éminent, à qui nous disons bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'équipe qui vous accompagne, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs et fans de Radio Okapi. Je profite de cette occasion de dire Neve le meilleur à tous les auditeurs à travers le monde de la Radio Okapi, surtout ceux de Lubumbashi entourés par Moussa Gwakikoilere.
Merci beaucoup. Nous parlons de la nouvelle loi sur la réparation des victimes des violences sexuelles. Comment doit se faire la mise en œuvre et son application sur terrain? Qu'est-ce que vous avez à nous révéler concernant ces projets, ces lois qui ont été promulguées par le chef de l'État?
C'est déjà un pas. Je crois très bien que l'une des infractions la plus douloureuse et qui laisse les traces un peu consistantes sur la victime, c'est la violence sexuelle. Nous savons très bien que le gouvernement et les régimes en place sont en train de nous révéler beaucoup de choses qui ont été cachées par les anciens régimes. Mais nous savons très bien que la RDC est très riche en tests. Le Congo dispose on peut dire que c'est une bibliothèque internationale de lois, mais qui reste désuète, à mon humble avis, parce que nous avions aussi fait les droits à l'université. Mais je peux vous dire que, messieurs les journalistes, ce que nous sommes en train de subir, ce que surtout les auteurs de violences sexuelles sont en train de subir, surtout les plus victimes et les plus marginalisés de ces auteurs-là, de ces victimes-là, ce sont ceux-là qui avaient été violés après les conflits armés. Je prends l'exemple de chez nous, par exemple à Chabunda, où on prenait même les enfants de 12 ans. Ces enfants-là, on les violait, et après les avoir violés, on les utilisait comme des instruments de guerre. Et c'est là, quand cet enfant va au moins grandir, elle aura toujours des psychoses sur sa vie. Nous savons très bien que, et nous pouvons rappeler à cette occasion que, la violence sexuelle avec toutes ses conséquences devrait être une priorité des priorités de toutes les lois de la RDC. Pourquoi je dis ça, messieurs les journalistes? Nous avons ici monsieur le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel, qui fait tout son mieux. Il est en train de consentir tous ses efforts pour au moins éradiquer la violence sexuelle. Mais qui, jusque-là, ces efforts-là sont en train d'être anéantis par la politique. Mais je sais très bien que l'influence politique sur les actes de violence sexuelle, messieurs les journalistes, accentue d'une manière et d'une autre. J'avais fait mon stage de LD au palais de justice militaire à l'auditorat militaire de Bukavu. Nous avions suivi des procès, messieurs. Vous voyez un bourreau, ce qui est très anormal. Vous êtes victime et après avoir subi ces actes inhumains, et vous voyez votre bourreau se promener sans problème et on est en train de maquiller de mensonges en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de bêtes noires cachées. Et pour que ces lois-là soient bien appliquées, il fallait que la politique se dissocie de la justice. Et parce que si la politique entre par la porte, la justice finira par sortir par la fenêtre. C'est pourquoi nous devons toujours... il faut d'abord avoir cette équité-là, cette moralité, de s'imaginer si c'est ma femme qui a subi ces actes-ci. Que sera mon sort? La société, d'abord, cette infraction-là a des conséquences sociales, a des conséquences familiales et des conséquences religieuses. L'auteur, la victime... Et marginalisé jusqu'à la moindre étape. Il y a aussi le bourreau qui actuellement, messieurs les journalistes, c'est avec de larmes aux yeux que je suis en train de dire ça. Et je peux d'abord encourager, et si jamais il y aurait des députés qui seraient reconduits, c'est l'initiateur ou soit c'est le sénateur qui avait initié cette loi-là, il devrait être reconduit pour les séances 2023. Parce que la violence sexuelle nous fait peiner, nous qui sommes ici surtout dans des milliers à forte agglomération. Il y a beaucoup la violence a beaucoup de facettes. Et si on n'en parle pas même sur les milieux professionnels, pourquoi pas moins encore sur le milieu scolaire et académique. La violence bat record fera d'assaut la collectivité et la société actuelle. Et si le législateur a ainsi réfléchi comme ça, on devrait quand même accompagner cette loi par de mesures d'application sérieuses. Parce que si cette loi serait au moins bien appliquée, il faut que les autorités soient sérieuses et tout et chacun à son niveau puisse au moins fournir ses efforts pour que cette pratique-là ne soit pas une réalité ici à RDC. Nous avons des... Parce que la violence n'est pas seulement basée sur les femmes. Il y a aussi les hommes qui sont violés. Il y a aussi les majeurs qui sont violés. Et par la définition simple de la violence sexuelle, c'est le fait de passer un acte sexuel sans le consentement de l'un ou de l'autre.
Oui, merci beaucoup, Éminent. Merci beaucoup pour votre témoignage, interpellation et coup de gueule. Merci beaucoup. Je pense que Maître Justin aura le temps de revenir sur tout ce que vous avez évoqué. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu, que vous intervenez. Cette fois-ci, retournons à Kinshasa pour donner la parole à Maître Gaston, à qui nous disons bonjour. Maître Gaston, vous êtes en ligne? Malheureusement, le temps pour la réalisation des rap. Oui, Maître Gaston, est-ce que vous êtes là? Il a plu à Kinshasa, la liaison téléphonique n'est pas assez bonne. On va tâcher, on tâchera de rappeler Maître Gaston qui nous a appelé depuis la ville de Kinshasa. Maître Justin, comment répondez-vous à la préoccupation, presque au coup de gueule, de Éminent Mwanda, qui nous a appelé depuis la ville de Bukavu?
Je voulais commencer par saluer les compatriotes éminents. J'entends que nous sommes dans la même ville d'ailleurs. Je suis aussi, je me mets à sa place en fait. Je crois que ce qu'il exprime, c'est ce qui est exprimé par la quasi-totalité du peuple congolais. Vous savez que ça fait longtemps que tout le monde a attendu qu'on puisse avancer avec l'effectivité de la justice transitionnelle dans notre pays. Et malheureusement, c'était une question qui était restée dans les oubliettes. C'est pour ça que j'ai commencé par saluer ces avancées avec les piliers et réparations. Je voulais l'apaiser et susciter dans le sens que la loi qui a été promulguée par le chef de l'État, son deuxième article, a prévu des concepts clés qui vont guider tout le travail qui va suivre. Et principalement, il peut retrouver au littéral I, R et S, les notions de survivant et survivante, les notions de victime et les notions de victime. Donc, on a défini la victime, le survivant comme toute victime ayant survécu aux violences sexuelles liées au conflit et ou au conflit contre la paix et la sécurité de l'humanité et s'étant affranchi de son état de victime. Je pense qu'on trouve beaucoup de cas comme ça au niveau de Kamituga ou dans les territoires de Moenga qu'il a évoqué principalement.
Chabunda également.
C'est la même situation dans toutes les provinces de l'Est, voire même dans une grande partie des provinces du Kasaï. Et j'avais évoqué déjà au début, en citant les grandes parties de la justice transitionnelle, les différents piliers, la notion de vetting. Ça revient encore une fois dans la loi pour dire qu'il s'agit de l'exclusion de l'accès aux charges publiques des auteurs des violences sexuelles liées au conflit et ceux des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc prochainement, on sera en mesure de brandir cette loi pour dire, par exemple, à une autorité qui veut nommer des personnalités dans notre pays, qu'en citant exactement celui dont on sait qu'il a été auteur ou co-auteur ou même commanditaire des crimes liées aux violences sexuelles ou à d'autres conflits et exiger à ce qu'en vertu déjà de ces principes qui est contenu dans la loi, cette personne ne puisse pas assumer des fonctions publiques, ne continue pas à assumer des fonctions publiques, parce que ça serait aussi une sorte de se moquer des victimes qui continuent d'attendre non seulement justice mais aussi réparation. Je voulais évoquer aussi la notion des victimes qui est revenue dans la loi, c'est le littéra S de l'article 2 qui définit la victime comme toute personne ou groupe de personnes ayant subi directement ou indirectement un ou plusieurs préjudices, résultat des violences sexuelles liées au conflit et ou des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés en République démocratique du Congo. Encore une fois, si on rentre dans une cité comme Moulombodi, dans la province du Kasaï central, l'Ansoma Kananga, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de victimes comme ça. Les compatriotes ont évoqué aussi la situation des victimes, des personnes qui ont été, des femmes qui ont été enterrées vivantes. Là, cette fois-ci, nous sommes dans les territoires de Mwenga et on se rend compte que ce sont des victimes qui attendent toujours la justice. Je peux donc lui rassurer qu'il y a des compatriotes, il a évoqué, il a cité le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, qui demande tous les jours à ce que la justice transitionnelle soit effective dans notre pays. Mais au niveau national, il y a la distinguée première dame qui a pris les taureaux par les cornes en acceptant d'accompagner les processus dans les volets de réparation. Et il y a d'autres compatriotes comme vous, personnellement, vous qui animez cette émission, et les autres, qui pensent qu'un jour, oui, la justice transitionnelle sera effective et les victimes seront rétablies dans leurs droits, à tous les niveaux en tout cas.
Oui, maître, il a aussi plaidé que l'on puisse dissocier les droits de la politique, parce que lorsque la politique prend les pas sur les droits, parfois c'est compliqué de poursuivre les bourreaux, les auteurs de ces genres de crimes.
Je l'avais déjà évoqué, le fait que nous sentons qu'il y a les volets réparation qui avancent, nous avons salué cela. Mais nous avons, j'ai aussi rappelé qu'il y a les volets pénal qui traînent à démarrer. Parce qu'en principe, on devait commencer d'abord par les volets pénal, et puis poursuivre avec les réparations. On se veut qu'on en aurait surtout celles ici, des réparations qui dépendent directement des décisions judiciaires. Risque de souffrir tant qu'on n'aura pas un tribunal pénal spécial pour la RDC ou alors des chambres mixtes spécialisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu une grande période sur les plans politiques où on a continué à sacrifier la justice à l'autel de la paix. Et je pense que c'est la position de la plupart des Congolais qui veulent que la justice transitionnelle soit effective, des Congolais et des Congolaises d'ailleurs. Nous voudrions qu'on ne puisse pas continuer à gratifier les auteurs des crimes dans notre pays par des postes, que ce soit ministériels, que ce soit au niveau de l'Assemblée comme des parlementaires, que ce soit au niveau des nominations auprès des entreprises publiques ou des services spécialisés comme l'armée et la police. Sinon, on n'aura jamais un développement. Il a été prouvé que tous les pays post-conflit se sont développés, par exemple, grâce au fonds de réparation, entre autres. Mais il n'y a pas vraiment de réparation sans justice. Donc, il faut que les volets justice aussi bougent, ce qui permettra de décourager la quasi-totalité des potentiels auteurs qui continueraient à violer, mais aussi à commettre des crimes contre la paix, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité dans notre pays.
Maître Justin Bahiroué Mutabunga, nous rappelons que vous êtes coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Vous intervenez depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Nous vous gardons en ligne. On retourne au standard pour donner la parole à d'autres auditeurs. Nouvelle loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles. Comment se fera la mise en œuvre de cette nouvelle loi promulguée par les chefs de l'État? Nous en parlons dans cette partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Envoyez vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires dans les courriels de nommé service@radiokapi.net.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous donnons la parole à Monsieur Charles qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Tati, bonjour aussi à l'EJT.
Nous tablons sur la nouvelle loi relative à la réparation des victimes des violences sexuelles adoptée en décembre dernier par les chefs de l'État en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets, Charles?
En tout cas, sans vous cacher, Monsieur Tati, j'interviens avec l'arme aux yeux. Parce que si dans les dans l'espace Grand Katanga, vraiment, ça ne va pas vraiment. Alors, j'ai voulu demander à l'invité, ce n'est pas une bonne chose d'installer ou de planter un tribunal spécialisé à côté d'un site minier, par exemple. Parce que nous constatons vraiment ici, au Katanga, à côté d'un site minier, vraiment, il y a à boire et à manger. Ça ne va pas. C'est Sodome et Gomorre. Et même en pleine journée, vraiment, ça ne va pas. Alors, nous voulons que l'État puisse vraiment ouvrir grandement.
Oui, mais quand vous dites que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe réellement?
Il y a des violences sexuelles comme ça qui se passent en pleine journée aux yeux aussi de tout le monde. Mais malheureusement, ça continue son bonhomme de chemin. Et il n'y a pas aucune intervention là de l'État. Ça continue toujours comme ça. Et pour ne pas demeurer de promulgation en promulgation, moi j'aurais aussi préconisé la mise en place de nouveaux magistrats. Comme ils ont vu les failles de leurs aînés, là que leurs prédécesseurs ont échoué, moi je pense qu'ils viendront avec une nouvelle donne. Parce qu'on peut promulguer avec ces mêmes magistrats qui ont déjà failli. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. La situation ne doit pas changer. Moi je pense qu'il a fallu aller vite en besogne pour installer de nouveaux magistrats pour maintenant promulguer. Parce que sinon nous continuerons toujours de promulgation en promulgation. Et pour terminer, est-ce que cette matière-là, il n'y a pas moyen de la confier à la justice militaire, par exemple? Parce que nous voyons, la justice civile a échoué. On ne se cache pas, monsieur le journaliste. La justice civile a échoué. Alors, il a fallu la confier complètement et entièrement à la justice militaire pour que la situation puisse quand même changer. Sinon, la RDC risque et continuera à être toujours la capitale des violences sexuelles partout dans le monde. Voilà un peu, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, monsieur Charles. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Notre invité, maître Justin, aura le temps de répondre à votre préoccupation, votre cri d'alarme dans les sites miniers où il y a des cas de violences sexuelles qui se commettent. D'après vous, donc, maître Justin aura le temps de réagir par rapport à votre témoignage et commentaire. Cette fois-ci, allons à Chikapa pour donner la parole à Célestin Guengué, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Bienvenue dans Capi Service. Nous parlons de la nouvelle loi relative à la réparation des victimes des violences sexuelles. Comment doit se faire, comment est-ce que cette nouvelle loi doit être mise en application en RDC? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Quand nous avons reçu les messages par rapport à la promulgation de la loi, on était tellement content d'entendre vraiment de voir cette loi-là. Mais pour moi, je vois que c'est une loi qui ne sera pas mise en exécution par rapport aux différents milliers. Très souvent, si je parle de ça, je parle plus précisément chez moi. Je vous dis, messieurs les journalistes, ce que nous voyons chez nous, c'est le contraire. C'est pas, premièrement, il n'y a pas la justice. On peut voir tout un groupement, comme mon groupement de Bambengi, qui compte plus de 5000 personnes, où il n'y a même pas un sous-chef. Il n'y a même pas un sous-chef de la police. Alors, vous avez un groupe déjà là, peut-être. Ils se sont regroupés, ils s'appellent les bandits autorisés par l'État. Ces gens-là commettent des situations inattendues. Alors, comment cette loi-là doit être mise en application tant qu'il n'y a pas d'abord la justice? Donc, qui va maintenant exécuter cette loi? C'est ça au moins ce que je me demande. Parce que, en réalité, pour qu'il y ait vraiment l'application d'une loi, il faut qu'il y ait une justice. Alors, la justice doit marcher de pair. Il faut qu'il y ait des agents de l'ordre. Par exemple, il faut qu'on ait la police dans nos milieux.
Reculer.
Dans nos milieux ruraux. Il faut voir la police. Mais il n'y en a pas. Je vous dis, quand vous descendez chez moi, là, ou là, le territoire de Mouka, plus précisément au long de la rivière Sankuro, vous verrez des situations difficiles. Ou pour atteindre les sous-chefs de la police, il faut faire au moins 50 km. Et quand vous arrivez là, ces gens-là, ce sont les gens corruptibles. Ils se contentent de ce qu'on leur donne. Donc, ils ne font absolument rien. Je ne sais pas comment, par quel mécanisme, cette loi-là aura lieu dans nos contrées.
Merci beaucoup, Monsieur Célestin Nguengue. Nous rappelons que vous nous appelez depuis la ville de Chicapa. Merci d'avoir intervenu. Maître Justin, comment répondez-vous à nos auditeurs? Il y a d'abord Charles, hein, qui a évoqué les cas de violences sexuelles qui sont souvent commis en toute impunité dans les sites miniers, dans les Katanga démembrés.
Ah oui, je salue encore une fois les compatriotes Charles, mais aussi Célestin. Je voulais répondre à Charles principalement en lui disant que les viols qui sont commis, ou les cas de viols qui sont enregistrés dans les carrés miniers, ce sont des infractions qui pèsent ou qui sont déjà réprimées par les codes pénales ordinaires.
Mmh.
Je voulais l'encourager à mener plus de sensibilisation du côté des victimes pour qu'elles puissent dénoncer. Je sais que les Katanga, quand même, c'est parmi les provinces les mieux garnies ou suffisamment fournies en ce qui concerne les nombres des magistrats. Et je suis presque convaincu que plus il y a des dénonciations, plus peut-être on peut avoir une capacité de répression. J'ai entendu aussi qu'il n'a pas beaucoup de confiance dans les juridictions civiles. Je crois que si les juridictions civiles ont fait aussi leurs preuves en matière de répression des violences sexuelles, mais c'est pas autant, je suis d'accord avec lui, qui est du côté militaire. Les juridictions militaires sont très actives. On en a l'expérience avec les deux Kivu et particulièrement aussi à la partie du Kasaï. Mais je crois aussi que, comme il a évoqué, avec les recrutements des nouveaux magistrats, et je pense que je suis en train de rencontrer aussi la préoccupation des Célestins qui se trouvent à Chicapa, avec les recrutements des 5 000 nouveaux magistrats, nous sommes en train de mener un plaidoyer au niveau de la société civile pour que ces magistrats soient répartis de manière équitable sur toute l'étendue du territoire national. On ne peut pas continuer à assister au fait que Kinshasa et Lubumbashi, et je pense principalement actuellement à l'autre province, je vais regarder tout de suite par rapport à la répartition, mais on se rend compte que la partie de Lubumbashi et de Kinshasa consomme plus de 50% des magistrats que nous disposons au niveau national. Il y a lieu de mener ces plaidoyers pour qu'on puisse les affecter, autant on le fait pour la police et pour l'armée, qu'on puisse les affecter aussi au même titre que les autres agents de la carrière publique, qui soient affectés dans tous les territoires qui composent la RDC actuellement, les provinces de la RDC. Je crois que c'est très important. Les problèmes qu'il soulève aussi par rapport à l'absence de la police dans les groupements des Bambengi, je pense que j'ai bien noté, c'est un problème aussi qui est criant au niveau national. Il y a effectivement des points et des recoins dans lesquels on arrive aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a presque absence de l'autorité de l'État en ce qui concerne la police, l'armée ou même les magistrats. Les plaidoyers continuent au niveau national, mais je l'encourage aussi à faire ce plaidoyer au niveau provincial et au niveau peut-être de leur chef ou de leur territoire, pour qu'on puisse répartir les unités de la police à leur disposition de manière équitable. Mais je sais que le problème, il est entier. Ça ne rentre pas directement dans les cas de la justice transitionnelle, mais on était obligé d'y prendre pour éclairer à la lanterne de nos compatriotes.
Oui, maître, en même temps aussi, il y a un sérieux problème de documentation des cas, même dans le cas de la justice transitionnelle à l'est du pays. Est-ce que la documentation, elle est vraiment bien fouillée? Est-ce que les victimes se sont exprimées?
Alors, oui, il y a un problème de documentation, mais comme vous le savez, il y a déjà des initiatives au niveau provincial et au niveau national. Nous sommes en train de travailler sur l'approche, nous sommes dans un programme Justice Future, on est dans une approche de regrouper les victimes, les aider à les former, mais aussi à se regrouper en association et à se mettre en équipe, mais aussi travailler sur la conservation des preuves, les sites qui vous à travers un député provincial, l'Assemblée provinciale du Kivu en train de travailler sur un édit portant sécurisation des sites où on peut identifier des fausses commis, parce que le site Kivu est parmi les provinces où, pour faire disparaître des crimes, on a vu des buildings poussés à l'époque de la rébellion. Mais nous savons effectivement que l'objectif était de faire disparaître certaines preuves. Donc la province est en train de travailler sur une étude comme ça. Mais au niveau national, il y a aussi des
ça serait intéressant par exemple qu'ils le mettent. Oui, ça serait intéressant de mettre par exemple pour cas de ces sites là de mettre par exemple des mémorials, des monuments pour à titre de rappel pour des raisons historiques.
Je voulais y arriver.
Au
niveau national, avec les ministères des droits humains et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a des consultations qui sont menées dans presque toutes les provinces. Je pense qu'on en est à la 11e province actuellement pour essayer de récolter les véritables besoins des victimes. Parce que comme on l'a dit, c'est vrai que nous plaidons d'un côté pour que il y aura bientôt un décret qui va formaliser les processus du fonds Fonarez, mais on attend aussi une ordonnance et d'autres mesures d'application pour la mise en œuvre effective de la loi. D'un côté, nous sommes en train de plaider pour qu'on puisse faire en sorte que ces processus, je vais dire les processus Fonarez ou les fonds en lui-même, soient animés par des véritables acteurs qui comprennent la situation ou qui maîtrisent bien les problèmes. Et pas nécessairement des hommes et des femmes politiques qui n'ont aucun engagement par rapport à la cause des victimes. Malheureusement, si on ne fait pas attention, ça risque d'être le cas, parce qu'à partir du moment où tout devient nomination politique, on a la crainte qu'on ne puisse pas servir plus davantage les victimes. Mais on peut réserver, en tout cas, un doute du côté positif, du côté de celles et ceux qui vont les autorités qui vont nommer les animateurs et celles et ceux qui vont prendre les mesures d'application. Mais aussi, on veut se rassurer que les véritables problèmes sont touchés par rapport aux besoins des victimes pour qu'on sache que si les plans communautaires, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, on peut construire des monuments à titre de rappel ou pour garder cette mémoire-là collective par rapport à ce qui s'est passé. On peut construire des écoles. On peut construire des hôpitaux, on peut construire des routes, pourquoi pas des stades. Ça, c'est aussi les plans communautaires. Mais il faut que ça ressorte comme un besoin collectif. Mais, quand cela ne tient, il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes qui ont été touchées, dont l'effort intérieur a été touché de manière individuelle. Il y en a qui ont perdu les leurs, qui ne les retrouveront plus jamais. Il y en a qui sont restés aujourd'hui porteurs du virus, du VIH-SIDA. Il y en a qui sont restés handicapés. Il y en a dont les psychiques, les plans psychiques, il y a des victimes qui sont restées pratiquement détruites. Et ces gens-là ont besoin d'une réparation individuelle. Mais il faut qu'on leur pose la question et qu'on sache quels sont les besoins spécifiques par rapport à ce qu'elles ont subi avant de procéder à une quelconque réparation. C'est l'approche que nous appelons celle de placer la victime au centre de tous ces processus qu'on arrive pour qu'on ne puisse pas réparer au profit des fausses victimes, mais plutôt qu'on puisse réparer au profit des vraies victimes et des vraies communautés qui ont subi les crimes.
Nous retournons au standard maître, restez en ligne. Nouvelle loi sur la réparation des victimes des violences sexuelles. Comment se fera sa mise en œuvre? Nous en parlons dans cette partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à Justin Kalabia, à qui nous disons bonjour.
Bonjour monsieur Marcel Ngombo, bonjour à l'invité, bonjour aux milliers d'auditeurs de Radio Okapi et meilleurs vœux monsieur Marcel.
C'est plutôt Tati qui a la présentation, allez-y.
Oui, monsieur Tati, merci pour les corrections. Monsieur Tati, en tout cas, nous saluons cette loi qui a été promulguée par le président Tshisekedi. La préparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et crimes, c'est une bonne chose, monsieur Tati. Mais dans ce pays, il y a beaucoup de lois qui sont promulguées, mais les mettre en pratique ou en vigueur, ça pose un sérieux problème, monsieur Tati. Il y a beaucoup de lois. Ma question maintenant est celle de savoir. J'ai des questions, monsieur Tati, vous allez me permettre.
Allez-y.
Parce que c'est avec beaucoup d'amertume qui est dans ce pays. C'est un pays qui a toutes les potentialités du monde, mais c'est un pays qui est toujours sous-développé. C'est un regret. Oui, à ce qui concerne cette loi, M. Tati, ma question est celle de savoir. La première question, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un service ou un organe de suivi que le président Tshisekedi a disponibilisé pour matérialiser la dite loi? Ça, c'est la première question. Et maintenant, les victimes là, toutes les victimes qui ont été violées pendant cette période de guerre, de conflit, est-ce qu'ils auront une cagnotte? Voilà mes deux petites questions. Et bonne journée, monsieur Tati, et à mon ami Pierre Dranion.
Merci beaucoup, Justin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous intervenez. Cette fois-ci, nous partons à Kindu, au Maniema, pour donner la parole à Maître Didier. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Nous parlons de la nouvelle loi relative à la réparation des victimes de violences sexuelles promulguée par le chef de l'État en décembre dernier. Comment se fera sa mise en œuvre? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets? On vous écoute, Maître.
Oui. D'abord, nous saluons l'avènement de cette loi.
S'il vous plaît, Maître, éteignez la radio, écoutez-nous au téléphone.
Ah, d'accord.
Éteignez la radio, écoutez-nous au téléphone, ça risque d'altérer la qualité des communications.
Ok.
Allez-y.
Ok, j'étais en train de dire que nous saluons tout d'abord l'avènement de cette loi.
Mmh.
Parce que si nous rentrons un peu en arrière par rapport à la loi sur les violences sexuelles que nous avons dans notre pays, depuis 2006, 2004, 2005, 2006, où nous avons eu cette loi, déjà dans les, si vous vérifiez dans les annales de cette loi, lors de la préparation de la loi, il y avait des annexes qui étaient prévues pour la réparation des victimes de violences sexuelles. Mais malheureusement, lorsqu'on a pu promulguer cette loi, il s'est fait que, compte tenu peut-être de la situation financière ou des défis sur le plan des ressources financières au niveau du gouvernement, on s'est dit que c'était difficile vraiment de prendre en charge la réparation de toutes les victimes. Et c'est ainsi que, pour avoir vraiment participé activement également aux travaux préparatoires de la dite loi, nous étions très désolés parce que les conséquences que nous avons enregistrées au pays par rapport aux victimes, c'est que beaucoup ne voulaient pas vraiment embrasser la voie judiciaire parce qu'on se disait, qu'est-ce que l'on va avoir?
Il n'y aura pas d'issue, oui.
Il n'y aura pas d'issue et la famille ne va rien gagner, la victime elle-même ne va rien obtenir en retour et sur le plan social, vous-même vous connaissez...
Il sera la risée de la société, oui.
...stigmatisation que nous avons dans notre pays. Alors l'arrivée ou l'avènement de cette loi pourrait être vraiment une réponse qui pourrait même permettre à ce que de plus en plus, on commence à éviter les arrangements à l'amiable que l'on est en train de décrier parce que dans nos communautés, depuis un certain moment, les victimes et leurs familles se disent « Nous allons obtenir quoi en allant en justice avec les auteurs des violences sexuelles ?» Et là, ça sera vraiment une réponse. Mais pourvu qu'on puisse sérieusement encadrer la faisabilité de cette réparation. Parce que comme vous le savez, nous avons peur depuis un certain moment que pareille loi puisse vraiment avoir un fonds que l'on va qualifier de fonds de commerce. Il y a beaucoup de pratiques qui peuvent également se tramer autour de...
C'est greffé autour de cette loi. Ok.
Voilà. Et là, il faudrait à tout prix que l'on puisse mettre en place des mécanismes qui pourront permettre à ce que c'est les fonds qui pourra aider réellement à réparer les cas de violence sexuelle là puissent être affectés là où il faut que ce soit. Sinon, ce sera un problème. Et puis, nous allons demain continuer à nous plaindre. Mais sinon, nous sommes très contents, par exemple, c'est une grande avancée par rapport à la mise en œuvre même de la loi sur les violences sexuelles.
Merci beaucoup, Maître Didier. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu, au Maniema, que vous intervenez. Maître Justin, comment répondez-vous à nos deux derniers auditeurs hein? Il s'agit de Justin Calabia de Bounia qui a voulu savoir est-ce qu'il y a un organe de suivi qui a été mis en place pour veiller à l'application de cette loi promulguée par le chef de l'État en décembre dernier.
Effectivement, je salue aussi les compatriotes Justin, mon homonyme d'ailleurs, qui nous écoute à partir de Bounia.
Oui,
effectivement, oui, il y a un organe de suivi et l'organe va se traduire à travers un établissement public qui sera mis en place par le premier ministre à travers un décret. Un établissement public à caractère technique et financier et social chargé de la mise en œuvre, de la protection et de la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, je pense que c'est lié, entre autres, à toutes les mesures d'application de la loi qui sont attendues. Et je crois que dans les quelques jours qui suivent, il va suivre que son Excellence et le Premier ministre a actualisé un décret dans ce sens-là. Mais sa deuxième question consiste à savoir s'il y aura des victimes qui vont accéder à l'argent.
Oui, si ça sera en dehors, en dehors des actions collectives, des projets collectifs qui seront réalisés, est-ce qu'on va aussi penser à traiter des victimes au cas par cas?
C'est ce que j'ai dit, que le volet réparation a deux aspects. Il y a l'aspect collectif et il y a l'aspect individuel. Il y a des victimes qui ont besoin de réparations individuelles qui ont préjudice qu'elles avaient subi. Et là, lorsqu'on parle de réparation individuelle, il y a d'ailleurs un projet pilote de réparation administrative qui a été développé par le Global Civil Fund, le GSF, à travers la Fondation Panzi, au site Kivu et au Kasaï central. Et les victimes ont accédé à de l'argent liquide selon leurs besoins. C'est un projet qui a voulu juste donner de l'exemple à caractère pédagogique par rapport à ce que l'État est appelé à réaliser demain. Oui, certaines victimes, oui, de manière individuelle, pourront accéder à de l'argent par rapport à leurs besoins qu'elles auront à exprimer. Je donne juste l'exemple. Il y a une victime qui peut dire que moi, j'ai besoin d'un champ pour cultiver des cannes à sucre. Il y a une autre qui peut dire que moi, j'ai déjà suivi une formation en coupe et couture. Je voudrais qu'on puisse me doter d'un kit en coupe et couture. Comme ça, je vais continuer à faire ce travail-là, essayer d'oublier ce qui m'est arrivé. Donc, ça sera possible. Et pour aborder la préoccupation du compatriote, les confrères, j'estime d'ailleurs Maître Didier, il a dit qu'il est maître.
Oui.
J'espère peut-être qu'il est avocat parti de Kindu. Je voulais lui rassurer peut-être qu'il y a moyen de corriger tout ce qu'on a connu comme des vies. Et c'est le moment de les demander au niveau national. C'est le moment de les demander pour faire en sorte que les mécanismes de sécurisation de tous les fonds qui sont déjà là, parce qu'il y a déjà une tranche payée par l'Ouganda dans l'affaire qu'il a condamnée par rapport à la
fameuse guerre des 6 jours en
Tanzanie. Il y a 5 millions qui sont déjà logés en RDC. Il y a d'autres fonds aussi qui vont être récoltés par les gouvernements congolais et par d'autres donateurs. Il y a moyen que maintenant on demande, et je l'ai dit au début, il faut demander à ce que toutes les mesures d'application ne soient pas politisées, mais plutôt qu'on y mette des techniciens, des personnes, des hommes et des femmes qui sont engagés au quotidien en faveur des victimes et qui ont de l'expertise. Mais pas seulement des personnes qui sont désignées parce que proches d'un homme ou d'une femme politique, dans le sens de dire qu'on sent que c'est un établissement public qui aura beaucoup de millions, qui aura des privilèges, des immunités et qui va sacrifier les intérêts des victimes. Je crois que c'est maintenant où tout le monde est appelé à demander cela au niveau du gouvernement, d'autant plus que ces mesures d'application ne sont pas encore effectives après la promulgation de la loi.
Oui, d'où je lis par exemple, maître, le commentaire que nous a posté Laurent. Laurent, il est à Kananga. Il nous a dit ceci, nous saluons cette loi qui vient combler le vide juridique de tout ce que vous avez énuméré comme facteurs, mais il se peut que dans notre pays, nous sommes habitués à des nouvelles lois qui ne servent à rien et qui ne sont même pas vulgarisées et respectées par ceux qui l'ont voté. Nous devons être sérieux dans ces pays. Les lois, c'est bien, mais... qu'elles sont au profit, est-ce qu'elles sont vraiment réellement au profit des victimes ou de la population locale? Il revient ici au Parlement. En fait, il a voulu savoir si vraiment cette loi est vraiment avantagée pour les victimes et pour la population locale. Laurent, qui nous a écrit depuis la ville de Kananga.
Alors, je pense que c'est une loi vraiment nécessaire et importante à la fois. D'autant plus que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois. La RDC dispose de beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées, qui sont mal appliquées. Mais on avait besoin d'une loi qui déclenche pour la première fois les processus de la justice transitionnée dans notre pays. Et le gouvernement a voulu commencer par les volets réparation. Et du côté de la société civile, on accompagne ça. Et on espère que oui, c'est très très important que cette loi soit là. Elle est déjà là. nous avons peut-être l'obligation de l'accompagner, mais en demandant, encore une fois, je cite, en demandant plus, qu'on puisse se rassurer que les véritables victimes bénéficient de ces réparations de manière individuelle et de manière collective, et non que ce soit un fonds qui sera détourné ou qui sera orienté à d'autres fins, principalement à, ou à des fins politiques. C'est là que je vais demander encore une fois à Laurent, à partir de Kananga, de s'impliquer aussi, et je lui rappelle qu'une cité comme Moulombodi, à Kananga, a besoin de réparations collectives individuelles. Donc il faut qu'on s'implique de manière collective en même temps, faire en sorte que ces fonds puissent être effectifs dans notre pays.
Et vous, en tant qu'acteur de la société civile dans le secteur de défense des droits de l'homme, quelles sont les actions que vous comptez mener à court délai, dans un bref délai, hein, pour la vulgarisation de cette loi? Parce que Laurent, il a aussi évoqué, il y a un sérieux problème de vulgarisation de toutes les lois qui sont promulguées ici chez nous au pays.
Nous avons peu de temps. Nous avons peu de temps pour vulgariser la loi parce qu'il y a les mesures d'application qui sont attendues. Nous nous focalisons d'abord sur un plaidoyer orienté vers les autorités des titelles, à savoir la présidence de la République, la primature et les ministères sectoriels de justice et droits humains, gens, familles et enfants, faire en sorte que les plaidoyers de la société civile soient entendus, qu'on mette au sein de cet établissement public des acteurs, des victimes qui connaissent leurs problèmes, mais aussi des acteurs impliqués sur la cause des droits des victimes dans notre pays. Ça, c'est le plaidoyer que nous menons maintenant. Après, effectivement, la mise en place de ces mécanismes, ces mesures d'application, nous allons nous tourner vers la vulgarisation de la loi. Mais nous ne voulons pas vulgariser la loi et rater les cas liés à la mise en place effective du fonds de réparation qui vient d'être institué dans notre pays.
Un message à lancer à l'intention des victimes, surtout qui sont concernées par cette loi qui a été promulguée l'an dernier par les chefs de l'État. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer aux personnes concernées par cette loi?
Le message, il est très simple. C'est de leur demander de garder espoir. Ça fait longtemps, plus de 20 ans, que nous demandons à ce que la justice transitionnelle soit effective dans notre pays. Mais au moins, on sent qu'il y a déjà un débit de volonté politique. Elles peuvent se rassurer que nous allons continuer à travailler pour que les fonds qui seront mis en place les soient effectifs et bénéfiques. Mais qu'en même temps, on ne va pas croiser les bras, nous allons continuer à travailler pour que les volets pénals aussi soient effectifs, de sorte que tous ces présumés auteurs des crimes dans notre pays, on ne continue pas de dérouler plutôt les tapis rouges pour eux, mais plutôt qu'on leur montre que leur place est en prison, leur place est au niveau des mécanismes de vérité et réconciliation, où elles doivent prendre l'engagement de ne plus commettre des crimes, mais plutôt de laisser les pays converger et émerger comme les autres pays post-conflit du monde.
Maître Justin Bahirwe Mutabunga, nous rappelons que vous êtes coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Merci d'avoir été avec nous pour débattre de ces sujets relatifs à la mise en place à la promulgation de la nouvelle loi concernant la réparation des victimes de violences sexuelles en RDC. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion.
Merci aussi à Radio Okapi et je précise que nous plaidons pour une justice réparatrice mais non une justice de vengeance. Merci beaucoup à tous et à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Okapi.
Au revoir. Merci. C'est par ici que s'achève Okapi Service que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Priscille Kabouya était à la réalisation et Dieudonné Nyangasa s'est occupé de la prise de son. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous d'Okapi Service. À bientôt.